l'histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité nombreuse ici au rendez-vous de l'Histoire de Blois où nous nous trouvons en direct à l'auditorium de la bibliothèque de l'abbé Grégoire. Rejoignez-nous ici donc, et nous sommes en partenariat avec le journal La Croix. Le dernier livre de Jacques Le Goff, le grand historien du Moyen-Âge, « Faut-il découper l'histoire en tranches ?» posait à nouveau, c'était il y a 3 ans, la question du découpage traditionnel des périodes historiques en périodes antiques, médiévales, modernes et contemporaines. C'était donc il y a 3 ans et ce livre poursuivait une entreprise de questionnement sur les termes en usage dans l'histoire, non seulement pour nommer, c'était le cas pour Jacques Le Goff, les périodes, mais aussi pour nommer par exemple les populations ou encore les espaces géographiques. Ce sont les questions que nous allons poser à nos 3 invités de ce matin avec toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, Anaïs Quin, Séverine Yattard, Victor Massé de l'Épinay. Et pour commencer, nous recevrons l'historien et archéologue François-Xavier Fauvel, et auteur il y a quelques années du Rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain, qui part dans son dernier ouvrage à la recherche du sauvage idéal, le peuple Khoikhoi, disparu d'Afrique du Sud, un peuple qualifié de bien d'autres noms, et nous en parlerons avec lui. Et puis la Fabrique recevra une autre fabrique, celle de l'océan Indien, prix Ptolémée 2017, c'était le week-end dernier, au rendez-vous de géographie de Saint-Dié et ses auteurs, Éric Vallée et Emmanuel Vagnon. Et enfin, nous vous présenterons la nouvelle séquence qui conclut chaque vendredi La Fabrique. C'était à la une, en partenariat avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Rétro News, dans laquelle nous rappelons, pour vous préparer au week-end, un grand texte de presse des 2 derniers siècles. Ce matin, la parution des Fleurs du Mal de Baudelaire, un article de 1857 lu par Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour à vous et bonjour à tout le public qui rentre tranquillement et doucement dans cet auditorium de la bibliothèque de l'abbé Grégoire à Blois. Et bonjour à vous. Vous êtes notre premier invité, François-Xavier Fauvel. Merci d'être là.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur d'un livre qui vient tout juste de paraître, À la recherche du sauvage idéal, aux éditions du Seuil. Un livre qui a la particularité de rassembler vos travaux depuis maintenant près d'une 20aine d'années sur un peuple qui s'appelle les Khoikhoi, que nous connaissons peut-être mieux sous le nom de Hottentots et que l'on pourrait confondre parfois avec les San ou les Bushmen. En fait, tout votre livre tourne autour de cette question de comment on a nommé ce peuple aujourd'hui disparu, François-Xavier Fauvel.
Oui, c'est exactement ça. C'est une enquête pour retrouver un peuple. C'est une enquête aussi pour savoir comment on a découpé par le passé ces ensembles de populations qui ont été rencontrées à partir du 15e siècle. C'est une population que les Portugais ont rencontrée à la fin du XVe, qui n'a cessé ensuite d'être rencontrée par tous les voyageurs qui faisaient le chemin entre l'Europe et les Indes. Le point de passage obligatoire de cette route des Indes, c'était le bout de l'Afrique.
C'était le Cap.
C'était le Cap, voilà. Et au bout de l'Afrique, on rencontrait inévitablement cette société, ces sociétés qu'on ne savait pas d'abord comment appeler, comment désigner, comment même regarder.
Et donc, votre travail part à rebours, d'une certaine façon, parce que vous avez commencé dans ce livre par un texte de Coetzee, je ne sais pas comment on prononce le nom de ce très grand écrivain.
Coetzee,
voilà, peut-être. Donc, qui est donc un texte qui reprend un fameux texte d'un auteur grec, En attendant les barbares, qui s'interroge justement sur cette question de la limite et de la frontière, d'un côté d'un empire et de l'autre côté de ce qu'il y a à l'extérieur et de celui qui menace ou de ceux qui menacent cet empire, et qui s'inscrit dans la lignée de ces textes du XXe siècle, qui sont ceux de Buzzati ou encore de Julien Gracq.
Oui, j'ai voulu commencer par examiner ce roman de Coetzee, L'intendant les barbares, qui est un roman de l'attente, une attente des barbares. Ces barbares qui sont postés sur la frontière, dont on attend le déferlement, et ce déferlement n'arrive jamais. Et néanmoins, quelque chose se passe, qui est une espèce de rencontre.
Mais on attend une forme d'apocalypse. Il y a une grande mélancolie dans ce que vous écrivez, à travers ce re-récit que vous faites du roman de Coetzee.
Alors, ce livre que j'ai écrit est un livre qui sert aussi à conjurer l'apocalypse. l'apocalypse. C'est-à-dire que l'apocalypse, elle a eu lieu. C'est-à-dire que c'est la destruction
d'une population.
C'est la destruction d'une population. Voilà, la rencontre avec les Khoïkhoï, elle a eu lieu. Bon, c'est une rencontre ratée dans le sens où cette rencontre, elle a fait exploser ce peuple des Khoïkhoï. Et comme cette rencontre, Lévi-Strauss disait, il commençait les tristes tropiques en disant « je hais les voyages et les explorateurs ». Non pas qu'il haïssait lui-même le fait de voyager, puisque pour aller sur le terrain, il faut bien voyager. Ce qu'il haïssait, c'est le fait de rencontrer des populations toujours déjà détruites par une rencontre précédente. Donc mon livre d'historien est véritablement un livre destiné à recommencer cette rencontre sur de nouvelles bases, sur une base historienne.
Oui, ce qui est quand même très étrange, c'est que vous dites, en fait, on ne peut pas aller chez les Khoïkhoï.
Ah non, on peut plus.
Il n'y a plus de pays des Khoïkhoï, d'une certaine façon.
Il n'y a plus de pays des Khoïkhoï.
C'est l'histoire d'une enquête ratée, d'une certaine façon.
C'est totalement l'histoire d'une enquête ratée que j'aurais pu commencer à raconter dans le bon ordre, d'une certaine façon. Si par bon ordre, vous voulez dire par là l'ordre chronologique, l'ordre habituel des narrations historiennes.
Une fouille archéologique, des travaux sur les textes, et puis ensuite aller vers la fiction. Vous partez de la fiction de Coetzee pour pouvoir revenir justement à ces fouilles archéologiques à la fin, par exemple.
Je pars de la fiction de Coetzee parce qu'en fait, elle est totalement contemporaine, elle habite notre imaginaire. Voilà. Donc l'enquête commence par là, comme un enquêteur de police judiciaire, voilà, qui doit enquêter sur un crime qui a eu lieu. Et là, le crime a eu lieu. Bon, et donc, il faut de la même façon procéder en remontant, en retrouvant des vestiges, en collectant des vestiges. Et je commence par Coetzee avant de remonter dans le temps, étape par étape.
Anaïs Quin.
Jusqu'à la toute fin, un journal imaginaire, qui là est un jeu d'histoire d'une certaine façon, parce que vous imaginez ce que vous auriez aimé trouver jusqu'à pouvoir fouiller dans les poches des Khoïkhoï.
Oui, alors je
s'ils avaient des poches.
S'ils avaient des poches.
Non, on imagine qu'ils en avaient, puisque
ils avaient des sacoches. Ils planquaient leurs affaires, leurs armes, dans leur espèce de sac à main. Bon. Et on sait ce qu'il y avait dans ces petites sacoches. Donc j'ouvre clandestinement une de ces sacoches, puis je fais l'inventaire de ce qu'il y a dedans. C'est assez frustre, mais néanmoins c'est intéressant. Ça fait partie de ces vestiges qu'on peut reconstituer.
Oui, alors ces Khoïkhoï, on les appelle les Khoïkhoï, mais on les a appelés les Khoïsan à un certain moment. C'est une création d'un biométricien allemand, Leonhard Schulz, dans les années 1920. On les appelle aujourd'hui, enfin du moins des Grika, qui sont donc sur le territoire de l'Afrique du Sud, revendiquent d'être les descendants de ces Khoïkhoï, mais le sont-ils vraiment? On les a appelés longtemps les Hottentots. En fait, on ne sait pas comment les nommer, et de toute façon, ne sachant pas vraiment comment les nommer, on ne sait pas quel était leur territoire exact, et parmi eux, il y avait une célèbre Vénus Hottentote, Sarah Bartman, dont vous racontez une partie de l'histoire.
Oui, Sarah Bartman est cette jeune femme d'Afrique du Sud, ça s'appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, mais du sud de l'Afrique, disons, qui a été transportée en Angleterre puis en France dans les années 1810, qui est morte à Paris, et dont le corps a été disséqué par Cuvier pour y prélever le squelette complet et puis les organes génitaux, le cerveau, etc. Et toutes ces parties-là ont été exhibées dans les vitrines du Musée de l'Homme à Paris.
Après
et...
que Sarah Bartman ait été exhibée aussi de son vivant
absolument.
Dans des cirques ou dans des
voilà. Les eaux humains.
Absolument. Et si Sarah Bartman a été autant regardée et si ses restes ont été disséqués et autant regardés dans une vitrine, c'est parce que pendant un siècle et demi, son corps a servi de pièce à conviction dans tous les débats de l'anthropologie du 19e siècle pour essayer de prouver quelque chose, voilà, prouver l'unicité du genre humain ou au contraire la multiplicité du genre humain.
Anaïs Quin.
Il y a une partie centrale dans votre ouvrage, François-Xavier Fauvel, qui raconte en 2002 la restitution de la dépouille de Sarah Bartman et l'occasion qu'elle présente de réinventer des traditions. C'est-à-dire que tout le monde redevient Khoïkhoï d'une certaine façon en Afrique du Sud.
Oui, il se passe quelque chose en Afrique du Sud au moment qui entre-temps est devenu l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que ça n'était que le sud de l'Afrique jusqu'à un moment. Et ça devient l'Afrique du Sud. Ça le devient au moment de la fin de l'apartheid. Il faut quand même se souvenir que l'apartheid, c'était un dispositif politique totalitaire qui classait les gens en fonction d'une appartenance raciale qui leur était imposée. Et les gens n'avaient pas le choix. Les gens devaient être noir ou blanc ou bantou ou colored ou indien, etc. Et la fin de l'apartheid non seulement est un appel d'air démocratique qui oblige à repenser complètement le territoire, etc., mais aussi les identités des gens. Les gens commencent à triturer leur identité, redeviennent libres devant leur identité et leur passé. Et en effet, on voit à ce moment-là ressurgir des identités occultées, des identités fragmentaires, voilà, qui avaient constellé comme ça l'imaginaire politique et qui sont réappropriées à ce moment-là par les gens.
Alors ça pourrait choquer parce que vous parlez à propos de ces usages des koi-koi, tantôt koi-san ou tous les autres noms qu'on a pu avec lesquels on a pu les qualifier. Vous parlez de réemploi, de remploi comme dans l'architecture. Vous dites en fait aujourd'hui on fait de l'archéologie des murs et on essaye de voir quand on regarde une église et qu'on décape les enduits, eh bien, on essaie de voir où étaient les anciennes entrées, les anciennes fenêtres, etc., qui ont été bouchées par le temps. Et c'est un peu cela que vous voulez faire dans ce livre à la recherche du sauvage idéal, François-Xavier Fauré.
Oui, parce que il m'est apparu comme une espèce d'évidence que l'histoire n'était qu'une façon de remployer des matériaux désuets ou des matériaux abandonnés, des matériaux ruinés, et en particulier sur la question des identités. Voilà, chacun ne fait jamais que remployer des bouts, chacun ne fait jamais que choisir les pierres qui sont utiles à la fabrique de son identité.
Oui, vous dites qu'il est vain de chercher à établir une généalogie des koi-koi, parce que si elle est généalogie, elle est forcément narrative, c'est-à-dire qu'elle aide chacun d'entre les personnes qui se revendiquent par exemple aujourd'hui ou qui ne se revendiquent pas koi-koi, donc à construire son propre récit, à construire sa propre histoire et à construire son rattachement au passé.
Oui, mais je crois que c'est une expérience que toutes les personnes qui ont fait leur arbre généalogique connaissent. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de s'émouvoir devant un arbre généalogique. La première, c'est de descendre l'arbre en suivant l'ordre de la filiation, l'ordre patronymique, depuis l'ancêtre qui nous a légué son nom et son patrimoine. L'autre façon de s'émouvoir devant un arbre généalogique, c'est de remonter du bas vers le haut. Et là, chacun sait bien qu'on peut, à chaque embranchement, remonter une autre filiation. Ça n'est pas un pur jeu de l'esprit. On a le droit de le faire. Chacun et chacun bricole sa généalogie. Les koi-koi ont fait la même chose à la fin de l'apartheid, en tout cas ce qui restait des koi-koi. Chacun s'est mis à réimaginer son arbre généalogique. Vous savez, les blancs faisaient la même chose. C'est-à-dire que les blancs qui étaient très très fiers d'affirmer leur origine hollandaise depuis le XVIIe siècle, à partir de la fin de l'apartheid, se sont mis eux aussi à redécouvrir qu'ils avaient une arrière-arrière-grand-mère koi-koi et à affirmer la préséance de cette arrière-grand-mère koi-koi dans leur généalogie.
Naïsque.
Et puis à la fin du Moyen-Âge européen, d'ailleurs, certains lignages nobles s'inventent même des ancêtres totalement surnaturels.
Oui.
Ouais, Mélusine pour les Lusignans. Et donc vous revendiquez ce droit à choisir les ancêtres qu'on a envie d'avoir, qu'on veut inscrire.
Mais tout à fait. Je dis tout simplement qu'on choisit ses ancêtres. Voilà. Et c'est une évidence pour tout historien qui travaille en Afrique. Ça m'apparaît comme une évidence qui devrait s'imposer à tout le monde. On ne fait que choisir ses ancêtres. Ils ne nous sont pas donnés. On les choisit. Alors quand on est koi-koi, évidemment, les ancêtres sont toujours là. Donc ils sont autour. Les ancêtres, c'est les défunts qui ne cessent de rôder autour. Voilà. Donc,
mais pourtant, les koi-koi ont disparu, sont apparus et disparus plusieurs fois. C'est-à-dire que là, cette histoire d'arbre généalogique ne fonctionne pas, puisque c'est une existence en pointillé.
Alors, c'est tout à fait vrai. Alors, le peuple a disparu comme peuple. La structure sociale, les règles de parenté, tout ça a explosé au début du XVIIIe siècle. Néanmoins, des individus ont continué à exister. Pourquoi dénier à ces individus le droit de reconstruire leur généalogie comme ils le veulent? Effectivement, ils ont disparu. Des mémoires ont disparu. La tentation, ce serait, devant la résurgence d'identité à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, ce serait d'être ironique. Ce serait d'être ironique en disant, mais enfin, comment peut-on être koi-koi quand on a cessé de l'être? Comment peut-on être koi-koi alors qu'on ne parle plus la langue, qu'on ne connaît plus les rituels, que tout ça paraît de l'ordre du pastiche? Bon. En fait, la narration de mon livre à l'envers, c'est-à-dire en partant d'aujourd'hui et en remontant dans le temps, nous prémunit, je crois, contre cette ironie-là, en montrant que c'est une gymnastique à laquelle chacun se livre dans sa vie
quotidienne. Nos ancêtres, les koi-koi.
Oui.
Comme nos ancêtres, les Gaulois.
C'est une
question de choix, après tout.
C'est tout à fait une question de choix. Enfin, on a le droit de choisir les Gaulois comme ancêtres, on a le droit de choisir qui d'autre on veut.
Oui, alors ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça bouscule, et on le sait en tant qu'archéologue et historien de l'Afrique, ça bouscule beaucoup les catégories que nous utilisons habituellement, et en particulier les catégories scientifiques, parce que Catherine Brice, dans les matins auparavant, nous expliquait que, tout compte fait, la question de la fiction était une question à se poser quand on était historien aujourd'hui, la façon de raconter. Vous avez choisi ce récit très éclaté, d'une certaine façon, François-Xavier Fauvel, pour À la recherche du sauvage idéal. Et vous reposez la question de cette confrontation, peut-être nouvelle, des façons dont on fait de l'histoire. Et évidemment, faire de l'histoire en Afrique aujourd'hui, ça n'est pas exactement faire de l'histoire comme en Europe ou comme aux États-Unis ou comme en Asie aujourd'hui.
Absolument, ce que c'est une historienne ou un historien de l'Afrique à propos de l'histoire de l'Afrique, c'est ce rapport très compliqué entre le présent et le passé qui est fait précisément de remploi, de réappropriation, de reconstruction, de revisite du passé. Et j'ai voulu montrer dans ce livre, en choisissant cette forme narrative consistant à remonter dans le temps, qu'on accède au passé à travers des couches successives, ce que fait n'importe quel historien d'une certaine façon. Sauf que d'habitude, on le raconte dans l'autre ordre. Bon. Mais en même temps, cette démarche-là, elle est assez familière à tous ceux qui lisent des romans policiers, à tous ceux qui regardent des séries policières ou voilà, de toutes sortes d'enquêtes à la télé. On sait bien qu'on procède par en remontant dans le temps, en collectant des vestiges, en remontant dans le temps. Le crime lui-même ne nous intéresse pas tant que l'enquête qui résout le crime.
Oui, c'est effectivement ce qu'on racontait l'autre jour dans une émission à propos de Cold Case, c'est-à-dire la façon dont on va chercher dans une série américaine les crimes qui sont théoriquement irrésolus 20 ans, 30 ans, 50 ou 70 ans plus tôt pour pouvoir les remettre au goût du jour anaïskien.
Ce qui peut être assez étonnant dans votre ouvrage, c'est que d'une certaine façon, vous ne vous débarrassez pas de l'imaginaire et des représentations. C'est-à-dire que vous l'intégrez totalement dans ce nouveau récit colonial que vous proposez. L'imaginaire est à part entière dans cette, oui, cette image de la colonisation et des identités qu'elle construit.
Oui, parce que quand ce peuple, dont je le redis, mais la rencontre était inévitable, et qui a disparu du fait même de cette rencontre, ce peuple a laissé des vestiges. Et pas seulement des vestiges matériels, pas seulement des vestiges dans le sous-sol de la province du Cap, mais aussi des vestiges génétique, mais aussi des vestiges linguistiques, des mots, des clics dans différentes langues, et aussi des vestiges dans notre imaginaire. Voilà. Et des toutes sortes de, enfin, le mot Hottentot lui-même, la représentation que nous avons de la Vénus Hottentot, de la trajectoire de cette femme, et puis les vestiges qui sont dans le roman de Coutzi et qui sont dans notre littérature du XVIIIe siècle, dans la littérature des Lumières, dans Rousseau, dans Voltaire. Voilà, c'est notre imaginaire.
C'est souvent d'ailleurs des Hottentots. Vous dites que quand, oui, on prend le bon sauvage, on imagine que derrière il y a le Hottentot chez les hommes des Lumières.
Absolument. Les notes de bas de page de Rousseau montre très clairement que son bon sauvage, c'est le Hottentot, parce qu'il a en tête ce à quoi il pense. Voilà, quand il pense bon sauvage, c'est le Hottentot. Et lorsque Voltaire pense ignoble sauvage, il pense également Hottentot.
Oui, vous dites à un moment à propos de Sarah Bartman, donc cette Vénus Hottentot qui a été exposée à la fin du 19e siècle, un peu dans toutes les villes de France et même d'Europe, vous dites, nous ne savons que cela, peu de choses, de Sarah Bartman. Pour le reste, il faut accepter qu'elle nous échappe. Et c'est peut-être une des leçons d'une certaine école d'histoire aujourd'hui, qui est une école d'histoire qui accepte les trous et qui ne veut, ouais, pas les boucher.
Tout à fait. C'est déjà ce que j'avais fait dans le Rhinocéros d'or. C'est-à-dire que je voulais donner au récit une forme qui était, dont la topographie épousait celle des sources. C'est-à-dire que voilà, je voulais pas tricher en faisant croire à la possibilité d'un récit linéaire, d'une grande fresque. Et de la même façon, là, je veux pas tricher. Je veux montrer que l'enquête pour retrouver ce passé-là passe par des couches archéologiques stériles dans lesquelles il y a du sédiment qu'il faut écarter pour retrouver une couche plus profonde.
Anaïs Quin.
Mais finalement, cette recherche du sauvage idéal, elle est très universelle, elle concerne toute altérité, et on a la sensation que vous proposez d'être inquiet, paradoxalement, de manière sereine.
Oui, c'est exactement ça. Je veux être inquiet de manière sereine. Je veux raconter cette enquête. Je veux raconter cette enquête-là. Je ne veux pas céder à la facilité, à la tentation de la complaisance à l'égard d'un peuple disparu, à l'égard d'un massacre. Et je crois au contraire dans la vertu très bienveillante de l'histoire de provoquer des rencontres. Voilà.
Merci et merci beaucoup donc à vous, François-Xavier Fauvel, pour votre livre donc à la recherche du sauvage idéal. Je crois que vous serez présent dans cette journée à un moment ou à un autre si on veut continuer la discussion avec vous dans ces rendez-vous de l'histoire de Blois. We'll be right back. une fanfare de l'île de la Réunion pour nous introduire donc au deuxième sujet, au deuxième thème que nous allons aborder dans cette fabrique de l'histoire en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois. Bonjour à vous, Séverine Yattard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à vous, Emmanuel Vagnon.
Bonjour.
Ainsi que Éric Vallée. Très heureux, vous faites la tournée là, ces temps-ci. Vous étiez le week-end dernier à Saint-Dié pour le Festival de Géographie où vous avez reçu le très prestigieux prix Ptolémée 2017. Bravo, félicitations. Merci. Et on a pensé que ça voulait aller le coup de recevoir à la Fabrique de l'Histoire, la Fabrique de l'Océan Indien. On est pour quelque chose dans le titre de ce livre ou pas du tout? On aime bien nous avoir une idée, on a donné des idées.
En fait, le terme de Fabrique, c'est un double clin d'œil. Je dirais que c'est d'abord... un clin d'œil à une des grandes figures de cet ouvrage, qui est Mercator, qui est le premier à avoir introduit le terme d'atlas pour désigner cette idée qu'on peut finalement voyager dans le monde uniquement par l'œil, hein, en feuilletant les pages d'un atlas. Et dans l'atlas de Mercator, il utilise aussi ce terme de fabrique.
Oui, c'est ça. Le titre exact, c'est « Atlas ou méditation cosmographique sur la fabrique du monde ».
Formidable.
« Figure dissolue ».
Vous prenez quelque chose, et ça remonte donc très loin à la question de la fabrique.
Exactement. Et dans Mercator, on a déjà l'idée que le monde est fabriqué, hein, une œuvre du créateur, mais aussi que la carte fabrique le monde et que l'atlas va permettre de voir cette fabrique du monde et de comprendre la mécanique du monde.
Et vous allez même plus loin. Vous dites à un moment qu'on parle de théâtre. Hein, c'est aussi une mise en scène. Et effectivement, une carte aussi... une mise en scène, vous allez nous en parler, hein, à la fois de mer, de continent, de ville, de port, de relief.
Alors en effet, le terme théâtre est absolument contemporain, puisque c'est l'ami de Mercator, Abraham Ortelius, qui utilise le titre de théâtre pour son propre atlas, hein, sa propre œuvre cartographique. Et l'idée là, c'est de présenter, comme dans un théâtre, la scène du monde.
Alors peut-être, on n'a pas précisé, Ortelius, Mercator, c'est à quelle période aussi, pour qu'on se situe un peu, hein, parce que vous partez des origines, vous, hein, sur la fabrication de cet océan
indien. Donc en fait, Mercator et Ortelius sont l'aboutissement, hein, de notre cheminement dans le livre, et ils apparaissent à la fin du XVIe siècle, hein, dans les Pays-Bas.
Et donc, ce livre s'intitule donc « La fabrique de l'océan Indien » avec un sous-titre « Carte d'Orient et d'Occident ». Il est absolument magnifique aux publications de la Sorbonne. Et une des questions qui est centrale à cette émission d'aujourd'hui, à savoir la question de la dénomination, est au cœur aussi, Éric Vallée, de votre livre, parce que cet océan Indien, on le connaît comme l'océan Indien, mais beaucoup de fois, on l'a représenté comme un océan fermé, d'autres fois comme un océan ouvert. Et puis, quelquefois, on s'est même posé la question, très souvent, de comment on allait l'appeler, cet espace géographique.
Oui, alors on part d'une question qui est une question assez simple. Tous ces noms qui servent aujourd'hui à désigner des espaces très familiers, océan Indien, océan Atlantique, Europe, sont des noms qui nous paraissent comme des désignations souvent neutres, enfin en tout cas usuelles, mais qui sont en fait des vestiges. C'est-à-dire que dans cette histoire qu'on essaie de reconstituer, le nom, c'est la dernière trace qui nous reste d'une espèce de grande fabrique, d'un grand processus d'invention, donc là on rejoint le thème de ce festival, hein, d'Eureka, enfin de découverte, qui a façonné progressivement une image de l'océan Indien qui est la nôtre aujourd'hui, et dont ce nom même est la dernière trace. Alors dans le livre, en fait, on a vraiment une démarche où on essaie de déployer toutes les opérations cartographiques, enfin qui relèvent de la cartographie.
Et il y en a un certain.
Il y en a un certain nombre. Donc il y en a trois principales, hein. Donner forme à l'espace, mm-hmm. lui donner un nom, et puis lui donner aussi une couleur, lui donner déployer un imaginaire visuel autour de cet espace.
Et puis d'emblée, vous partez de cette idée qu'évidemment, ces représentations, ces cartes qui donnent une vision réelle ou plus ou moins vraie, effectivement, de l'océan Indien, il faut la faire à parts égales. C'est-à-dire qu'on a, nous, une vision européo-centrée, mais bien sûr, il y a des cartographes arabes qui travaillent déjà sur justement la représentation de cet océan Indien, des cartographes dans d'autres régions. Et il y a des sortes de compilations, de circulations, en fait, de ces représentations que vous essayez de nous... dont vous essayez de faire la généalogie, en fait.
Hein. Emmanuel Vagnon.
Oui, alors on a essayé justement de sortir encore une fois d'une histoire progressiste de la cartographie qui aboutirait à une image réaliste du monde. Et on essaye de le montrer dès le début du livre en montrant que les images satellites d'aujourd'hui bouleversent complètement notre habitude de représentation du monde aussi. Et donc, avant que l'océan Indien soit réellement parcouru par les navigateurs occidentaux, les différentes civilisations du monde qui fréquentaient l'océan Indien n'avaient que des vues partielles. Finalement, la réalité, lorsqu'on n'a pas de satellite pour regarder la Terre depuis l'espace, c'est perçu par les sens de manière totalement parcellaire. Or, comment est-ce qu'on arrive à une vision globale de l'océan Indien? Comment s'est construite une image unifiée de l'océan Indien? Eh bien, c'est pas seulement la somme, mais la synthèse de points de vue différents.
Donc, ça circule, en fait. Ça circule
énormément.
Et de
transmissions tout à fait essentielles, de transmissions qui se sont faites dans tous les sens et aussi à différents niveaux. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement des transmissions de l'Orient à l'Occident, puis de l'Occident à l'Orient, comme on le dit souvent, mais il y a aussi des transmissions à différents niveaux, comme l'a rappelé Éric Vallès, c'est-à-dire des transmissions au niveau de la forme, des transmissions au niveau des toponymes qui ont évolué, qui sont passés d'une langue à l'autre, qui ont été repris ou bien traduits ou pas, et puis aussi la transmission parfois simplement d'images. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que la cartographie, c'est vraiment... La transmission de la cartographie n'est pas univoque, elle est très, au contraire, foisonnante et se définit par différents aspects des cartes.
Oui, parce qu'on avait cru comprendre, par exemple, en lisant l'histoire à parts égales de Romain Bertrand, que les grandes découvertes étaient le fruit, en particulier, de la volonté de chacune des puissances européennes qui partaient à la découverte du monde, qu'ils ne connaissaient pas à ce moment-là, de conserver ces cartes qui permettaient justement d'aller jusqu'aux îles aux épices, par exemple, pour les Portugais ou plus tard pour les Hollandais. Vous expliquez en fait que ça marche, mais ça marche pas trop, en l'occurrence, Éric Vallès. C'est-à-dire que, effectivement, théoriquement, tout cela est serré dans un coffre-fort, dans un palais du côté du Portugal, par exemple, mais que tout de même, on trouve des copies un peu partout et qu'au bout du compte, eh bien, les savants se transmettent des savoirs que les puissances, elles, voudraient garder pour elles.
Oui, c'est vrai qu'il y a une première question qui est qu'est-ce que c'est de transmettre une carte ? Et transmettre une carte, c'est pas comme transmettre un texte ou transmettre des idées, parce qu'une carte, c'est un objet aussi qui se donne à voir. Et donc la carte, elle se donne aussi bien comme une forme, comme aussi une atmosphère, donc comme je disais, de couleurs. On prend un exemple dans le livre, par exemple, celui des îles. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on voit apparaître dans la cartographie occidentale, qu'on appelle catalane, avec le fameux atlas catalan de la Bibliothèque nationale, hein, un chef-d'œuvre du XIVe siècle, cette idée d'avoir des îles colorées dans l'océan Indien. Donc une sorte d'océan Indien qui est une rivière de pierres précieuses. Et on montre qu'en fait, cette coloration des îles, elle commence d'abord dans la cartographie islamique. En tout cas, c'est là qu'on a les plus anciennes attestations, dès le XIe siècle. Et donc, on a une sorte de chemin discret, uniquement à travers la couleur, qui passe donc de carte de tradition, d'une tradition à l'autre. Et puis, effectivement, la question de la transmission aussi, elle se pose. Alors, à partir du XVIe siècle, elle devient vraiment un enjeu de pouvoir, un enjeu de contrôle, avec notamment ces fameux padrons, donc les cartes royales portugaises qui devaient rester secrètes, mais qui, en fait, très vite ont essaimé. Et on peut dire que ce qui essaime, mais dès le départ, il y a aussi une idée d'expérimentation. C'est-à-dire que le XVIe siècle, c'est vraiment un vaste laboratoire où on voit une profusion de formes, d'essais de formes nouvelles de cet océan, d'essais de nouvelles dénominations.
Et vous montrez aussi les acteurs de cette cartographie, parce que oui, il y a des géographes, mais il y a aussi des savants, il y a aussi des marins. Ça dépend aussi des routes du commerce qui s'élaborent peu à peu. Et donc, il s'opère des échanges, évidemment, de ces visions, de ces représentations de cet espace.
En effet, on a voulu insister aussi dans ce livre sur le fait qu'une carte est toujours produite à un moment donné par un auteur ou un groupe d'auteurs souvent, et qu'il faut contextualiser toujours les cartes, qu'il n'y a pas de carte dans un sens absolu, il n'y a pas non plus de carte originale, ça c'est un terme aussi très important. Les cartes sont toujours des copies de cartes antérieures, remaniées, redistribuées en fonction du contexte. Donc oui, l'importance du contexte de production, que ce soit de la part des savants, de la part des marins qui font des croquis, ou de la part de compilateur pour le roi, c'est très important. Et il y a aussi la part de la réception qui est tout aussi importante, parce qu'une même carte transmise dans un contexte différent peut être comprise de manière totalement différente et réinterprétée également.
Éric Vallet, par exemple, vous expliquez que l'océan Indien, il aurait pu s'appeler l'océan Rouge.
Oui,
ou l'océan vert, ou l'océan arabique, ou l'océan persique. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui combien, ou érythréen, on voit très bien aujourd'hui combien, par exemple, les dénominations persiques sont contestées, par exemple, pour le golfe persique, par des pays qui ne veulent pas voir reconnaître, par exemple, la présence de l'Iran tout proche. Et donc, ces questions de dénomination sont extrêmement importantes. Et même quand on parle d'océan rouge, on parle évidemment de la mer Rouge, et on la dessine en rouge sur la carte.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a toute cette histoire des dénominations qui est absolument passionnante. Et on s'est posé cette question, mais finalement, qu'est-ce que ça aurait changé si on avait appelé cet océan l'océan rouge ? Et pourquoi est-ce que finalement... Oui, ça aurait été pas mal.
On aurait été un peu du côté de Star Wars.
Hein. Voilà. Et finalement, il s'appelle Océan Indien. Donc là, c'est quand même une histoire qui est aussi très intéressante, puisque donc ce terme d'océan indien, il apparaît au début de l'ère chrétienne. Et puis, c'est vraiment Ptolémée, le grand géographe alexandrin du IIe siècle, qui va l'imposer en limitant de manière assez significative l'ampleur de la mer Érythrée, donc qui était auparavant, donc avant Ptolémée, le terme le plus générique pour désigner cet espace. Mais Ptolémée, quand il utilise ce terme d'océan indien, donc de mer indienne, en fait, il se réfère à une actualité géographique, politique, économique de son époque. Parce que il écrit à une époque qui a vu un boom du commerce romain dans l'océan Indien, donc une meilleure connaissance de cet espace, et il utilise finalement, il procède une forme d'actualisation des savoirs de son temps. Et ce qui est très important, et que montre Didier Marcotte, donc qui est celui qui a rédigé l'article sur Ptolémée dans ce volume, c'est que l'œuvre de Ptolémée est une œuvre ouverte. C'est-à-dire, c'est pas du tout une œuvre où Ptolémée dit voilà quelle est la réalité. Ptolémée définit une méthode, rassemble des données. Et ouvre un espace pour compléter ensuite ces informations.
C'est pour ça qu'il va être réapproprié.
Voilà. Alors donc au départ, chez Ptolémée, c'est une désignation ouverte, océan Indien. Et puis ensuite, c'est une désignation qui devient une désignation qui traîne dans les mémoires. Mais bon, on voit bien que les auteurs arabes, par exemple, vont abandonner assez largement cette désignation de mer de l'Inde comme désignation générique. Eux, ils préfèrent justement parler de mer de Perse parce que ils s'expriment d'un point de vue, qui est un point de vue, disons, du centre de l'islam, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran. Et en fait, c'est seulement à partir de donc la fin du Moyen-Âge que ce terme va revenir sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci, c'est déjà une relique. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose, une étiquette qu'on exhibe parce qu'elle vient de l'Antiquité et qu'elle est parée de cette noblesse de l'Antiquité. Le sens change totalement.
Ouais. Et pour les Coréens ou pour les Chinois, c'est quoi cet océan Indien? Et d'ailleurs, quand on voit les cartes coréennes, il y a une carte coréenne absolument extraordinaire. Il y a évidemment sur-représentation de la péninsule indochinoise, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui la péninsule indochinoise. Et puis, très, très loin, tout petit, dans un coin, une sorte de triangle. Et c'est la côte de l'Afrique, en l'occurrence, Emmanuel Vaillant.
Alors, en effet, sur cette carte célèbre qui s'appelle la Kangnido, qui est surnommée ainsi, l'océan Indien, finalement, c'est la mer occidentale, vue de l'Orient. Bien sûr, le regard est inversé. Et donc, l'accent est mis sur l'Empire de Chine, sur les péninsules qui en dépendent. Et l'Afrique est une péninsule tout à fait réduite en taille sur la carte, totalement à l'occident de la carte. Et donc, l'océan Indien n'est que la mer des Occidentaux, la mer occidentale vue depuis la Chine.
Ça, c'est vraiment un objet fascinant parce que c'est une carte qui a été peinte sur soie, donc au début du XVe siècle. Elle fait 1m50 sur 1m50. Et donc, il y a un luxe de détails absolument fascinant, notamment des toponymes de l'ensemble du monde. On a même retrouvé donc Marseille, Paris, donc représentés sur cette carte.
Et les Coréens du XVe connaissaient
début du
Marseille
et siècle, Paris. Exactement. Pourquoi? Parce que ils bénéficiaient de ce grand moment de synthèse des savoirs du monde qui est le moment mongol. Et donc... cette carte a été permise en fait par la circulation des savoirs qui s'est établie à partir du XIIIe siècle entre l'Orient et l'Occident.
Séverine Attard.
Non, vous travaillez aussi dans cet ouvrage sur la question de qu'est-ce qu'on met dans une carte et tout ce qui concerne les changements d'échelle. C'est-à-dire, finalement, on est dans la micro-représentation. Parfois, on représente les villes, les ports. Parfois, on représente que les grands espaces. Et ça, c'est aussi, ça circule aussi. Et ça change évidemment le point de vue général de la carte.
Alors, effectivement, c'est surtout au XVIe siècle qu'on voit arriver des croquis de ports de la mer Rouge et de l'océan Indien fréquentés par les Occidentaux. Et on se demande justement comment intégrer ces vues très partielles des côtes à une vue générale. Et là, effectivement, le canevas de Ptolémée a servi de cadre général pour ensuite reconstituer une carte qui est faite par les navigateurs de port en port et qui reprend finalement la cartographie des reliefs. Des rivages. Donc, en effet, nous avons voulu aussi changer les échelles et voir comment on pouvait intégrer l'océan Indien dans une image globale du monde, ce que Ptolémée fait déjà au IIe siècle, et au contraire, aborder les rivages comme autant de paysages qu'il va falloir intégrer à ces cartes.
Éric Vallée, il y a tout de même quelque chose de très surprenant, c'est que vous vous arrêtez donc au XVIe siècle, donc au moment de ce qu'on appelle théoriquement, et c'est peut-être remis en cause aujourd'hui, les grandes découvertes, puisqu'effectivement, ce sont des découvertes des Européens du reste du monde, mais le monde connaît peut-être déjà les mondes qui sont découverts par les Européens depuis très longtemps, et on le sait par des travaux d'historiens depuis quelques années. Vous intéressez donc à ce moment de bascule, qui est le moment entre le milieu du 15e et le tout début du 16e siècle, et on voit très rapidement combien la cartographie que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la planisphère que l'on utilise encore aujourd'hui dans les classes, est une planisphère qui s'établit très vite, d'une certaine façon. À partir du moment où ces navigateurs européens ont fait le tour des principaux continents, on a quelque chose qui est déjà à peu près semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mettons aux années 1540, la planisphère de Sébastien Cabot est quand même très proche de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, Eric Vallée.
Oui, il y a une forme qui se dessine effectivement de manière très nette. C'est surtout en fait avec Mercator Ortelius que cette forme va devenir canonique. Aussi parce que la cartographie change de support. Elle passe, et ça c'est vraiment une mutation très importante, elle passe d'un objet qui est un objet précieux, un objet rare, unique, la cartographie dessinée à la main, à un objet imprimé. Et ça, ça change tout. Ortelius et Mercator, c'est aussi la fabrique de la carte à la chaîne, en masse.
Emmanuel Vagnon, sur ce point.
Justement, on a gardé finalement dans la tradition scolaire occidentale le motif de la carte de Mercator. Finalement, ce sont les cartes d'Ortelius et de Mercator qui ont forgé la manière dont on se représente le monde. Et le fait que l'océan Indien, dans la plupart des cartes scolaires, même aujourd'hui, soit en bas à droite, par exemple, c'est un héritage finalement qui date de la fin du XVIe siècle. Mais ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est qu'il y a eu des expérimentations aussi, plusieurs projections différentes du globe à cette époque-là, plusieurs manières de répartir les terres et les mers sur le globe. Et on a voulu insister sur le fait que l'océan Indien n'est pas une découverte comme l'a pu l'être l'Amérique, parce que l'océan Indien, on en parlait depuis l'Antiquité. Mmh. On avait des textes qui décrivaient l'océan Indien depuis l'Antiquité. Et donc, l'océan Indien et sa position sur le monde est un héritage à la différence de l'Amérique.
Éric Vallée.
Et donc, le 16e siècle, c'est vraiment un moment de clôture, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit dans le livre, il y a une sorte de...
On le représente généralement comme un moment d'ouverture.
Voilà, et pour l'océan Indien, c'est un moment de clôture. Pourquoi ? Parce que les Grecs avaient ouvert dans l'Antiquité une grande enquête savante. Qu'est-ce qu'il y a au bout du monde ? Et donc, dans cette enquête savante, la question de l'océan Indien était question fondamentale. Et donc, pendant plus d'un millénaire, cette question agite les savants. Et finalement, au XVIe siècle, cette question se clôt, non pas parce qu'on a tout découvert de l'océan Indien. Il va y avoir encore des affinements de la cartographie, chose qu'on a oublié. Mais par exemple, le fond du golfe persique, donc les états du golfe actuel, le Qatar, par exemple, n'existe pas sur les cartes occidentales avant le XVIIIe siècle. Donc, il y a eu... il faut attendre, c'est pas fini à la fin du XVIe siècle, tout à fait. Mais qu'est-ce qui se clôture à la fin du XVIe siècle ? C'est l'idée d'un océan Indien qui désormais est circonscrit. Il ne va pas au-delà des îles de l'insule Inde. Après, on bascule dans autre chose, qu'on va appeler l'océan Pacifique. Et on s'est posé cette question, pourquoi est-ce qu'il a été clôturé à ce moment-là ? Pour nous, la réponse, c'est parce que c'était la manière de répondre à cette interrogation savante. Voilà. Et c'est ce pour ça qu'on termine notre livre en disant « L'océan Indien, c'est le premier océan de l'Ancien Monde ». À partir du moment où on va structurer le monde entre un Ancien Monde, qui était celui, imaginé des Grecs, des Grecs, et le Nouveau Monde, qui surgit au XVIe siècle, eh bien, le fait de stabiliser cet océan Indien dans les limites qu'on lui connaît aujourd'hui permet de conserver en fait une certaine image de l'Ancien Monde, alors que cette image commence déjà à éclater.
Alors, vous traitez aussi Éric Vallée dans l'ouvrage des différents récits en fait qui se superposent dans cette cartographie entre cosmographie, vous dites, et cartographie, c'est tout ce qui relève de l'imaginaire, des traditions et notamment des merveilles et qui s'ajoutent aussi à cette représentation du monde.
Oui, alors ça c'est aussi une histoire assez étonnante parce que on imaginerait assez volontiers dans une vision très linéaire des choses que plus on remonte dans le temps et plus on a de merveilles représentées sur les cartes et en fait c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment au XVIe siècle que l'on voit l'explosion de la figuration des merveilles dans les cartes. C'est-à-dire à ce moment-là où justement on commence à avoir une connaissance plus précise, plus fine, une vision du monde qui se transforme. Une des traces aussi de cette clôture de l'enquête scientifique, c'est justement la figuration de ces merveilles, parce que c'est une façon de dire...
On s'autorise alors, du coup ?
Oui, on s'autorise et on rappelle qu'ici était la fin du monde. Mais on sait bien que c'est plus tout à fait le cas.
Et donc, ces merveilles, ça fait partie de ces royaumes du prêtre Jean et autres merveilles de ce type-là, Emmanuel Vagnon ?
Alors, le royaume du prêtre Jean, c'est un mythe qui a été forgé au Moyen-Âge, qui a pris place d'abord en Asie avant de se déplacer vers le 15e siècle en Afrique, et qui apparaît sur les cartes, y compris les cartes du 16e siècle. Il y a d'autres merveilles qui apparaissent sur les cartes qui sont finalement reprises de l'Antiquité à la manière des figures mythologiques, donc vraiment allégoriques. C'est-à-dire que le lecteur ne va pas y adhérer, ne va pas croire à l'existence de ces monstres, de ces monstres marins ou de ces peuples merveilleux qui habitent les limites du monde, mais c'est une référence érudite à une culture antique qui a été revivifiée au XVe siècle et encore plus au XVIe siècle.
Merci beaucoup à vous Emmanuel Vagnon et Éric Vallée pour cette fabrique de l'océan Indien, carte d'Orient et d'Occident de l'Antiquité au XVIe siècle aux publications de la Sorbonne, véritablement un très très beau livre, et vous serez encore à Blois dans quelques heures, puisque c'est à 11h15, un peu plus d'une heure, que vous allez vous retrouver donc pour parler de cette question avec également Pierre Saint-Garavelou, Didier Marcotte, Déjanira Couteau et donc vous deux qui débattrez pendant une heure et demie de cette question de la fabrique de l'océan Indien à l'université ici à côté de la bibliothèque de l'abbé Grégoire où nous nous trouvons. Et là maintenant, nous nous retournons vers Victor Massé-Dépinay. Bonjour Victor.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes donc producteur à la Fabrique de l'Histoire et aujourd'hui vous allez vous transformer en comédien, pourrait-on dire. Vous allez essayer en tous les cas de faire cette dernière séquence de l'émission du vendredi depuis le début de l'année, donc depuis le début de cette saison. Nous proposons à nos auditeurs une séquence tirée du site Retro News qui est notre partenaire, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Et à chaque fois, nous lisons un extrait d'un grand article de presse que nous avons choisi avec le personnel de Retro News pour pouvoir proposer à nos auditeurs une sorte de bonbon à sucer pendant tout le week-end, un bonbon formidable de cette à la fois acide, c'est le cas aujourd'hui, ou quelquefois très doux, de cette écriture de presse très particulière. Aujourd'hui, nous allons lire le Figaro du 5 juillet 1857. Il s'appelle Gustave Bourdin et il parle de la sortie d'un livre qui s'appelle Les Fleurs du Mal.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
J'ai là deux volumes, imprimés et publiés par un nouveau venu, qui semble prendre à tâche de prouver une fois de plus que tout métier est doublé d'un art. Cet éditeur, c'est Monsieur Poulet Malassis. Il a su retrouver toutes les coquetteries de la vieille typographie. Les titres et les initiales en rouge, le papier blanc et collé, le caractère net, l'encre noire et limpide. Les odes funambulesques de Théodore de Banville, le comte Gaston de Raoucet-Boulbon par Henri de la Madeleine, ces deux livres d'essais, ont été accueillis avec acclamation par tous les bibliophiles, bibliomanes et bibliophages de Paris et des départements. C'est aujourd'hui le tour des Fleurs du Mal de M. Charles Baudelaire et des Lettres d'un mineur d'Antoine Fauchery. M. Charles Baudelaire est depuis une quinzaine d'années un poète immense pour un petit cercle d'individus, dont la vanité, en le saluant Dieu ou à peu près, faisait une assez bonne spéculation. Il se reconnaissait inférieur à lui, c'est vrai, mais en même temps il se proclamait supérieur à tous les gens qui niaient ce messie. Il fallait entendre ces messieurs apprécier les génies à qui nous avons voué notre culte et notre admiration. Hugo était un cancre, Béranger un cuistre, Alfred de Musset un idiot et Madame Sand une folle. La saillie avait bien dit « Christ va nu-pied, Mahomet vagabond et Napoléon crétin ». Mais on ne choisit ni ses amis ni ses admirateurs, et il serait par trop injuste d'imputer à M. Baudelaire des extravagances qui ont dû plus d'une fois lui faire lever les épaules. Il n'eut qu'un tort à nos yeux, celui de rester trop longtemps inédit. Il n'avait encore publié qu'un compte-rendu de salon, très vanté par les docteurs en esthétique, et une traduction d'Edgar Poe. Depuis 3 fois 5 ans, on attendait donc ce volume de poésie. On l'a attendu si longtemps qu'il pourrait arriver quelque chose de semblable à ce qui se produit quand un dîner tarde trop à être servi. Ceux qui étaient les plus affamés sont les plus vite repus. L'heure de leur estomac est passée. Il n'en est pas de même de votre serviteur. Pendant que les convives attendaient avec une si vive impatience, il dînait ailleurs, tranquillement et sainement, et il arrivait l'estomac bien garni pour juger seulement du coup d'œil. Ce serait à recommencer que j'en ferais autant. J'ai lu le volume. Je n'ai pas de jugement à prononcer, pas d'arrêt à rendre, mais voici mon opinion que je n'ai la prétention d'imposer à personne. On ne vit jamais gâté si follement d'aussi brillante qualité. Il y a des moments où l'on doute de l'état mental de M. Baudelaire. Il y en a où l'on n'en doute plus. C'est la plupart du temps la répétition monotone et préméditée des mêmes mots, des mêmes pensées. L'odieux y coudoie l'ignoble. Le repoussant s'y allie à l'infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de saints dans si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermines. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Encore si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. Un vers de M. Baudelaire résume admirablement sa manière. Pourquoi n'en a-t-il pas fait l'épigraphe des fleurs du mal ? Je suis un cimetière abhorré de la lune. Et au milieu de tout cela, quatre pièces. Le reniement de Saint-Pierre, puis Lesbos, et deux qui ont pour titre Les femmes damnées, quatre chefs-d'œuvre de passion, d'art et de poésie. Mais on peut le dire, il le faut, on le doit. Si l'on comprend qu'à 20 ans, l'imagination d'un poète puisse se laisser entraîner à traiter de semblables sujets, rien ne peut justifier un homme de plus de 30 d'avoir donné la publicité du livre à de semblables monstruosités.
Merci, merci beaucoup Victor Massé de l'Épinay d'avoir lu ce texte donc dans ce contexte qui est donc tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, un nouveau texte de presse tiré du site Retro News de la BNF et je vous conseille d'aller voir ce site qui est évidemment très riche. On y lit non seulement les contributions de Monsieur Gustave Bourdin qui est un peu oublié aujourd'hui, plus en tout cas que Charles Baudelaire, mais aussi de tout un tas d'autres plumitifs ou encore écrivain, et nous terminons cette émission très rapidement pour pouvoir donner quelques conseils à tous ceux qui sont dans la salle, à tous ceux qui vont venir aujourd'hui et demain, vu par l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de très riche évidemment, dans ces rendez-vous de l'histoire, 20e du nom. Anaïs Quien, qu'est-ce que vous avez repéré dans le programme par exemple?
Alors les rendez-vous de l'histoire, c'est aussi du cinéma, un gros cycle cinéma, donc vous pouvez revoir tous les films importants de cette année. I'm Not Your Negro de Raoul Peck, qui a eu le prix d'ailleurs du documentaire historique des rendez-vous de l'histoire. Également du côté de la fiction, 120 battements par minute, commenté par Philippe Artière, qu'on connaît bien, à la Fabrique de l'Histoire. Et je voulais vous signaler, si vous n'avez pas de place ce soir pour aller voir le film de Raoul Peck, pas d'inquiétude, je vous conseille Peau d'âme de Pierre-Oscar Lévy, qui a décidé d'opérer des fouilles archéologiques sur le site de tournage de Peau d'âne, ce terrible film de Jacques Demy. Et le film est incroyable. Et on y découvre bien d'autres choses que les bouts de polystyrène du décor de la cabane où le cake d'amour a été préparé.
Oui, pourtant, ce cake d'amour, il nous a beaucoup fait rêver, en l'occurrence, Anaïs Quien. Séverine Yatard, de votre côté.
Vous avez mon intérêt pour tout ce qui concerne l'histoire du genre et des femmes. Et donc, il y a une table ronde. Tout à l'heure à
14h,
nouvelle perspective sur l'histoire du féminisme avec Christine Barre, Sylvie Chaperon et Isabelle Lacour-Labarthe. Et puis, j'irai bien voir aussi une projection rencontre à 17h, enseignée à vivre Edgar Morin et l'éducation innovante d'Abraham Segal, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de films à Blois.
Ouais. Victor Massé-Lépinet, qu'est-ce que vous avez repéré dans le programme?
Moi, j'ai repéré cet après-midi à l'auditorium du Conservatoire deux conférences musicales qui s'enchaînent. À 17h, l'invention du rythme et de la polyphonie au Moyen-Âge, avec Jean-Pierre Rigaud. Et à 18h45, une promenade dans l'histoire de l'orgue par Henri Drouhan. Donc moi, je n'y serai pas, mais je demanderai à notre réalisatrice Anne Fleury de me raconter.
Et puis de mon côté, donc pour cette journée d'aujourd'hui, en tous les cas, on a entendu ce matin au Matin de France Culture Dominique Prestre, grand historien des sciences. Il sera présent, il a même organisé une table ronde dans le contexte de cette série Eureka, donc au 20e rendez-vous de l'histoire de Blois, avec Charlotte Big, avec Frédéric Aitouati, avec Raphaël Moreira et Sébastien Greffsmühl autour des spectacles de science, comment on a mis en scène la science, en particulier depuis le 17e et le 18e siècle. Et c'est un thème qui m'intéresse beaucoup de notre côté. Et puis, il faut, pour terminer cette émission, remercier toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire. Thank you.
remercier toute cette équipe qui prépare chaque jour de la semaine cette émission avec exigence et précision. C'est l'occasion de le dire et de le redire, et plus précisément aujourd'hui parce qu'ils sont ici. Mais il y a tous ceux qui sont restés à Paris, toutes celles qui sont restées à Paris. Francesca Fossati, Séverine Yattard, Anaïs Quin, Victor Massé-Lépinet et à la réalisation Anne Fleury. Mais ce travail n'est possible aussi que grâce au service technique de la radio, de Radio France, qui nous accompagne ici à Blois en extérieur, par exemple, Alexandra Bergel, Frédéric Kérou, Alexandre James. Et nous saluons ici plus particulièrement celui qui, dans l'ombre, prépare et réussit chaque année l'installation de ses équipes ici à Blois, les équipes de France Culture. Il s'appelle Roland Dindalex et on le salue d'autant plus qu'il va bientôt partir à la retraite et que ce sont ses derniers rendez-vous de Blois. Et grands applaudissements pour lui. Et un grand merci. Mais aussi les équipes de communication qui préparent également notre venue et qui seront là aussi pour répondre à vos questions sur les programmes de France Culture. Toute cette journée, ici même, vous savez qu'il y a non seulement l'émission de science cet après-midi, celle de Nicolas Martin, mais évidemment, vous allez retrouver Concordance des temps demain, ici, à 10h en direct. Jean-Noël Jeannet recevra François Jarige sur la question des illusions du progrès.